peu qu'à cette demande qui est la première des sept demandes du Pater, et ce n'est pas pour rien qu'elle est la première demande. Cette première demande, donc, est très importante. Et certainement, dans notre siècle, beaucoup de catholiques, parfois trop activistes, ou au contraire trop tièdes, réalisent trop peu l'importance de la louange qui doit être adressée à Dieu. Nous sommes, ou nous devons être avant toute chose, des adorateurs. Saint Ignace disait, l'homme a été créé pour aimer, louer et adorer Dieu, et par ce moyen, sauver son âme. Saint Paul disait, et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, dont nous avons déjà parlé, cette carmélite de Dijon, morte à 26 ans en 1906, après une ascension spirituelle fulgurante, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité avait beaucoup médité sur cette phrase de Saint Paul qui disait « Nous avons été prédestinés par un décret de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés afin que nous soyons la louange de sa gloire. » Et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité écrira « J'ai lu cela dans saint Paul et j'ai compris que c'était ma vocation dès l'exil en attendant le Sanctus éternel. » Donc j'ai compris que nous devons être louanges de gloire, j'ai compris que c'était ma vocation dès l'exil en attendant le Sanctus éternel. Et c'est d'ailleurs une très belle expression de cette bienheureuse. Car que ferons-nous au ciel sinon chanter la sainteté de Dieu ? Sanctus, 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 trois fois, une pour chaque personne de la Sainte Trinité. Et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité voyait tellement cet office de louange comme sa vocation particulière qu'elle signait ses lettres, parfois, tout simplement par Laudem Gloriae, car elle considérait que sa vocation était d'être une louange de gloire à Dieu. Nous avons tous, et pas seulement la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, nous avons tous été en effet pour créer pour louer, aimer et servir Dieu. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est sommes-nous des âmes dont nous pourrions dire qu'elle rende gloire à Dieu. Pouvons-nous dire, par exemple, tiens, hier, au cours de ma journée, j'ai été une belle louange de Dieu par mes actions. Saint Augustin disait, vous êtes sa louange si vous vivez selon le bien. Est-ce que notre vie est une louange de Dieu ? Est-ce que nous pouvons dire que notre vie correspond à « Que votre nom, Seigneur, soit sanctifié ?» Dans l'Apocalypse, à propos des élus du ciel, saint Jean, qui avait eu cette vision, qu'il avait donc retranscrite dans son livre, écrivait en parlant des saints du ciel, « Ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, disant, Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant. Et ils se prosternaient, et ils adoraient, et ils jetaient leur couronne devant le trône, disant, vous êtes digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Et on retrouve ce Saint, Saint, Saint qui nous rappelle ce Sanctus éternel dont parlait la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Et nous pouvons y penser à la messe quand nous chantons, quand nous récitons pendant les messes basses le Sanctus, nous sommes, comme il est dit dans la préface, mais parfois nous sommes distraits dans les préfaces, nous sommes unis aux anges. Una voce dicentes unia, nous disons d'une seule voix avec eux, ceux qui font au ciel, saint, saint, saint. Et cette description de saint Jean dans l'Apocalypse nous montre ce que nous ferons au ciel pour l'éternité. Et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité posait cette question si juste: comment imiter dans le ciel de mon âme cette occupation incessante des bienheureux dans le ciel de la gloire? Nous ne réalisons certainement pas assez que nous sommes créés pour louer Dieu, et que nous ferons pour l'éternité, et que nous devons commencer cela sur terre. Nos âmes doivent être des âmes de louange. Et plus nous apprendrons à louer Dieu, plus nous apprendrons à tourner notre regard vers Dieu, et plus nous serons épanouis, plus nous correspondrons à ce pourquoi Dieu nous a créés. Il y a une très belle petite phrase dans la dernière lettre des Moniales du Barou qui dit: la tristesse, c'est le regard sur soi, et la joie, c'est le regard sur Dieu. Hein, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous avons tous plus ou moins l'habitude de faire comme le dit saint Paul: le mal que nous ne voulons pas faire, et nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire. Et nous en sommes un peu malheureux. Nous avons par exemple tous plus ou moins l'habitude de médire, de dire du mal, un peu, ou parfois beaucoup, ou de critiquer trop facilement, et moi certainement plus que vous. Notre œil n'est pas très bon. Et cela vient peut-être, ou même sans doute, du fait que notre regard n'est pas assez tourné vers Dieu. Et si notre regard était davantage tourné vers Dieu, nous serions tellement rassasiés de beauté, nous serions tellement subjugués que nous ne perdrions plus de temps à voir le mal ici et là. Saint François de Sales avait une belle expression, il disait: toutes les angoisses et les tribulations, on pourrait dire les gens pénibles autour de nous, ceux qu'on aime moins, toutes les angoisses et les tribulations qui peuvent nous arriver disparaissent comme les étoiles en présence du soleil. Quand nous sommes tournés vers Dieu, notre soleil, c'est Dieu. Si nous regardions davantage celui qui doit être le soleil de nos âmes, eh bien les étoiles de nos difficultés ou de nos croix pâliraient, et nous serions certainement beaucoup plus heureux. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait: une louange de gloire, une âme qui passe son temps à louer Dieu, une louange de gloire est un être toujours dans l'action de grâce. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est heureuse. Elle est heureuse tout simplement parce qu'on est heureux avec Dieu. Elle disait encore: une âme unie à Dieu est un sourire vivant, rayonnant et donnant la charité. Donc, conclusion, louons Dieu de notre mieux et notre vie sera plus belle et prendra un éclat beaucoup plus beau. Que votre nom soit sanctifié, cela concerne aussi le bon usage du nom de Dieu. Nous disions ce matin que dans l'Ancien Testament, et plus encore aujourd'hui, pour beaucoup, n'écrivez pas ou ne prononcez pas le nom de Dieu par respect. On utilisait seulement des métaphores ou des qualités représentant Dieu. Nous savons qu'il est mal d'utiliser le nom de Dieu en vain. Par exemple, par colère, ou de l'utiliser en blasphémant, par mépris ou par haine, ce qui arrive dans notre monde. Saint Paul nous dit: on ne se moque pas de Dieu.
Et je pense que nous avons tous été, un jour ou l'autre, les témoins auditifs de jurons contre Dieu. Au moins, à la télévision, si nous avons la télévision. Alors souvent, nous ne pouvons pas faire grand-chose, car sur notre lieu de travail, à l'école ou dans les transports en commun, nous ne sommes pas toujours en mesure de corriger avec efficacité ceux qui nous entourent, et parfois même les reprendre ne ferait que multiplier les mauvais mots ou les jurons, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais par contre, peut-être à d'autres moments, auprès de gens que nous connaissons mieux et sur lesquels nous avons une petite influence, nous pouvons et même nous devons manifester notre mécontentement afin que le nom de Dieu ne soit pas utilisé en vain. Il y va de l'honneur dû à Dieu. Quand la femme adultère dans l'Évangile était en passe d'être lapidée, cette femme adultère, c'est un peu doux, car nous n'avons pas toujours été si fidèles à Dieu. Eh bien, notre Seigneur n'a pas détourné son regard, mais il a parlé pour la protéger. Il a parlé pour nous protéger. Il n'est pas resté dans son coin. Il n'a pas fait comme si de rien n'était. Eh bien, parfois, nous aussi, nous devons exprimer notre petit mécontentement quand nous entendons des choses sur Dieu qui peut-être ne sont pas bonnes. Bon, si on peut faire améliorer la situation. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Dieu considère comme fait à lui ce qui nous est fait à nous. C'est un amour de Dieu purement gratuit, car nous ne méritons absolument rien. Et pourtant, Dieu n'est pas insensible aux petits microbes que nous sommes. Eh bien, le minimum, c'est que nous devrions souffrir nous aussi comme faites à nous les injures faites à Dieu. Car si Dieu souffre comme faites à lui les injures qui nous sont faites, combien plus devrions-nous souffrir comme faites à nous les injures qui lui sont faites à lui? Dieu doit être pour nous beaucoup plus important que notre propre vie. Nous devons être prêts à tout perdre plutôt que de le perdre, et c'est ce que nous montre l'exemple d'Élie. Tout perdre, y compris notre confort, notre réputation, notre vie et même la vie de ce monde. Donc le moindre blasphème devait nous faire plus souffrir que si nous-mêmes ou si notre mari ou nos enfants étaient traînés dans la mort. Et nous savons tous combien nous sommes piqués au vif quand on dit du mal de nous ou de quelqu'un de notre famille proche. Et en est-il de même quand on entend dire du mal de Dieu? Est-ce que nous sommes profondément blessés quand on insulte Dieu? Dans certains pays pourtant persécutés, comme en Inde, où le christianisme est minoritaire, eh bien, un prêtre malgache m'avait dit il y a quelques années, dans mon pays, si certains films blasphématoires, comme il y en a en France, passaient, les chrétiens qui sont minoritaires descendraient dans la rue et le film ne passerait pas. Le film ne passerait pas. C'est ça. Et c'est aussi pour cela qu'il faut soutenir des associations comme la Griffe, etc., qui essaye de défendre l'honneur de Dieu. Que votre nom soit sanctifié, l'Église, à la fin du salut du Saint-Sacrement, nous fait dire des prières réparatrices, des prières que vous connaissez, qu'on appelle les louanges divines en réparation des blasphèmes. Dieu soit béni, béni soit son Saint-Nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, etc. Eh bien, je crois, chose facile à faire et à la portée de tous, quand nous entendons au travail, à la radio, à la télévision, le nom de Dieu être blasphémé, nous pourrions au moins dans notre cœur dire « Dieu soit béni ». Comme si nous disions à Dieu « Oubliez, Seigneur, ce juron qui vient d'être prononcé, car moi je vous aime ». Et au cours de la journée, nous pouvons également, sans même que personne ne s'en aperçoive, multiplier ces petites invocations. Dieu soit béni, béni soit le nom de Jésus. Et particulièrement, quand nous voyons des choses qui nous choquent, ce serait une excellente habitude, une excellente pratique. C'était le secret de nombreux chrétiens. Et cette habitude qui deviendrait la nôtre ferait que, comme pour ceux qui profèrent souvent par réflexe d'ailleurs soit des mots vulgaires, soit des jurons, eh bien nous aurions l'habitude inverse de lancer des invocations pieuses. C'est ce qui est arrivé à sainte Léonie Avia, fondatrice des Oblates de Saint-François de Sales au XIXe siècle. Elle avait l'habitude des oraisons jaculatoires qu'elle lisait tout au cours de la journée, et elle disait souvent « Mon Dieu, c'est pour vous ». Quand elle avait une peine à offrir, elle disait « Mon Dieu, c'est pour vous ». Quand elle souffrait, elle disait « Mon Dieu, c'est pour vous ». Quand elle faisait un sacrifice, elle disait « Mon Dieu, c'est pour vous ». Et finalement, elle disait tout le temps « Mon Dieu, c'est pour vous ». Et un jour, alors qu'elle apportait au livreur d'une usine un paquet de tricots à réparer, elle lui dit « Mon Dieu, c'est pour vous ». Et elle raconta par la suite souvent cette histoire qui la fait rire. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude souvent de ces petites invocations. Je crois que ce serait des réflexes, de beaux réflexes chrétiens. Vous voyez. Il y avait autrefois, il y en a encore, mais moins, dans l'ancien code des indulgences, l'Église accorde des indulgences, il y avait beaucoup d'indulgences pour ces invocations, comme ça fait Jésus, et pitié de nous, indulgence de 60 jours. Vous voyez, l'Église accordait des indulgences, qui est une bonne chose, pour entraîner justement les chrétiens à multiplier ces petites invocations qui sont faciles à faire. Et ce serait tellement merveilleux de dire, quand on fait tomber un plat de soupe, « Mon Dieu, je vous l'offre, ben, c'est mieux que s'énerver. » Oui, c'est beaucoup mieux que s'énerver. Et ça peut devenir véritablement, bon, peut-être pas pour les tricots, mais ça peut devenir véritablement un réflexe très pieux. Vous voyez, une sorte on vit en présence de Dieu. Saint Benoît Joseph Cotolingo, nous allons en reparler, on en avait déjà parlé, ces deux pages, j'aime beaucoup, était pénétré de cette idée de louer Dieu. Si nous louons Dieu, Dieu veillera sur nous. Et il avait fait installer dans la chapelle, dans l'église de sa maison de la Divine Providence à Turin, pour pallier à l'absence de louange de Dieu, il avait fait installer des cages, avec dans ces cages des canaris, qui chantaient du matin au soir devant le tabernacle. Puisque les hommes ne viennent pas adorer le Très-Saint-Sacrement, nos canaris s'en chargeront à leur place. On peut penser au Saint-Curé d'Ars, qui dans la forêt un jour se mit à pleurer en entendant les oiseaux chanter. Les oiseaux ont été créés pour chanter et ils chantent. Nous avons été créés pour louer Dieu et nous ne louons pas, dira-t-il. Que votre nom soit sanctifié, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Et remarquez dans la liturgie, vous voyez le nom de Dieu, le nom de Jésus. Au nom de Dieu, on a ça chez saint Paul, qu'au nom de Dieu tous genoux fléchissent. Vous avez certainement remarqué que le prêtre, quand il chante les oraisons, ou quand il dit les oraisons, il termine toujours Père Dominum Nostrum, Jesu Christum, etc. Parce que nous devons demander à Dieu le Père par le Christ notre Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom, c'est pour ça que vous n'avez pas reçu. C'est pour ça que l'Église peut toujours le Père par Jésus-Christ notre Seigneur, mais vous remarquerez que le prêtre, il est comme ça dans le missel, et puis tout d'un coup, il se tourne vers l'autel. Parce qu'au nom de Jésus, les rubriques, l'Église nous demande, eh bien justement, de nous incliner. Et si le prêtre, dans l'Évangile, dans l'Épître, ou dans une oraison, tombe sur le nom de Jésus, il doit incliner un petit peu la tête et les épaules. Vous voyez ? On va dire, ouh là là, c'est bien compliqué tout ça. Mais en fait, c'est très bon pour nous. Parce que ça nous rappelle que ce nom de Dieu est saint, ce nom de Jésus est saint. Ces petites rubriques liturgiques nous rappellent comment nous tenir, comment prononcer le nom de Jésus. Et pour le nom de la Sainte Vierge, pour le nom de Marie, il est prévu que nous inclinions un petit peu la tête. Et pour le nom du Saint du jour, et tout est ordonné dans la liturgie. Le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur, doit être sanctifié. Et dans cette première demande du Notre Père encore, quand nous disons que votre nom soit sanctifié, nous devons l'entendre non pas seulement par le prochain, non pas seulement par les autres, ou encore autour de moi, mais il faut que cela commence en moi. Et la sanctification du nom de Dieu, c'est la sanctification de Dieu, hein, c'est l'honneur à rendre au Dieu. L'honneur à rendre, nous en parlerons cet après-midi, l'honneur à rendre au Saint-Sacrement. L'honneur à rendre à notre Seigneur présent dans la Sainte Eucharistie. Et un des moyens d'honorer Dieu, c'est pour ça que nous récitons les louanges divines, justement, c'est Dieu soit béni, etc. Nous le récitons devant le Saint-Sacrement exposé. Cet après-midi, vous aurez une exposition du Saint-Sacrement un peu courte, et le Saint-Sacrement ne sera pas exposé avec l'ostensoir comme d'habitude, mais juste avec le ciboire. Il y a deux modèles d'exposition du Saint-Sacrement, une solennelle, avec l'ostensoir, une un peu moins solennelle, mais qui est solennelle malgré tout, avec le ciboire. Normalement, c'est pour les expositions qui sont plus courtes et moins solennelles, vous voyez. C'est juste pour que vous ne soyez pas étonnés. Francesco de Fatima, dont nous avons déjà parlé, le bienheureux Francesco, l'un des petits voyants de Fatima, avait une idée très vive de l'honneur à rendre à Dieu. Il avait vu l'enfer où vont tant de pécheurs, il avait vu, surtout dans une apparition, Jésus très triste. Cela l'avait profondément marqué. Tellement marqué qu'il ne voulait plus jouer. Il n'avait pas 10 ans. Il ne voulait qu'une chose, c'était de consoler notre Seigneur qui, disait-il, est si triste. Et pour cela, eh bien, il se rendait très fréquemment devant le Saint-Sacrement. Quand il a eu la grippe espagnole qui allait l'emporter à 10 ans, son plus vif regret, c'était de ne plus pouvoir passer comme autrefois de longues heures au pied du tabernacle à consoler Jésus caché. C'était son expression. Lorsqu'il tomba malade, raconta Lucie, il me disait quelquefois quand je passais chez lui en rentrant à l'école, écoute, va à l'église et présente à Jésus caché toutes mes salutations. Ce que je regrette le plus, c'est de ne plus pouvoir y aller afin de rester quelques moments auprès de lui. Quand sa sœur allait communier, alors que lui ne pouvait plus se rendre à l'église, il la faisait venir tout près de lui pour qu'il soit un peu en présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce Jésus caché qu'il souffrait de ne plus aller visiter, vous voyez, qui est dans le cœur de sa sœur. Et la veille de sa mort, pour continuer avec lui, il dira « Écoute, je suis très mal, il ne me reste que peu de temps avant d'aller au ciel. » Et Lucie lui répondit « Alors n'oublie pas là-haut de prier beaucoup pour les pécheurs, pour le Saint-Père, pour moi, pour Jacinthe. » Et Francesco lui répondit « Oui, je veux bien, mais écoute, ces choses-là, demande-les plutôt à Jacinthe parce que j'ai peur d'oublier. » Lorsque je verrai notre Seigneur, et avant tout, je veux le consoler. Et nous pouvons nous aussi penser à, dans la sanctification du nom de Dieu, à consoler un petit peu notre Seigneur de toutes les louanges qu'il ne reçoit pas et qu'il devrait recevoir. Et si nous ne sommes pas bénis particulièrement aujourd'hui par Dieu, c'est peut-être parce que le monde n'honore plus Dieu comme il devrait le faire, nos pays n'honorent plus Dieu comme il devrait le faire. Etc. Le nom de Dieu n'est plus sanctifié, le nom de Dieu évoqué. Il faut penser à cette prière que l'ange a appris aux enfants de Fatima, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Deuxième demande du Notre Père, que votre règne arrive. Ça file. La royauté de Dieu, la royauté du Christ, et quelque chose qui peut nous sembler bien lointaine. Bien sûr, on sait que le Christ est roi. Combien de martyrs au XXe siècle sont morts en disant, comme la bienheureuse sœur Teresa de Jésus du Carmel de Guadalajara en Espagne, en 1936, combien sont morts en disant, justement, « Vive le Christ roi ». Des milliers, très probablement, que ce soit pendant la persécution au Mexique au début du siècle, que ce soit pendant la guerre d'Espagne, c'était le cri des catholiques. En particulier, face au peloton d'exécution, comme le bienheureux Miguel Pro, témoignage extraordinaire que la mort n'a pas réussi à vaincre et à faire taire. Vive le Christ roi. On peut penser aux jeunes bienheureux Francesco Castello Aleu, un des milliers de martyrs de la guerre d'Espagne en 1936, chrétien exemplaire, de zèle apostolique, de charité pour les pauvres. Il a 22 ans et il est arrêté parce que catholique. Il comparaît devant le tribunal populaire. Le président commence par l'accuser, c'est souvent ainsi, de fascisme. On a en effet retrouvé dans son bureau une grammaire italienne et une grammaire allemande. Comme Francesco démontre qu'il les possède uniquement pour des motifs professionnels, son accusateur en vint alors directement au véritable motif d'accusation. Finissons-en une bonne fois pour toutes, es-tu catholique ? Oui, je suis catholique. Et aussitôt, le procureur requiert la peine de mort. Invité à se défendre, Francesco déclare, si être catholique est un délit, j'accepte très volontiers d'être délinquant. Il est alors condamné à être exécuté le soir même. Quelques heures plus tard, il est conduit au camion avec 6 autres condamnés au cimetière de la ville où il doit être fusillé. Il est 23h30. Ses derniers mots devant le poteau d'exécution seront également « Vive le Christ roi ». Il écrira 2 lettres, je vous en ferai grâce, qui parviendront, qui seront montrées au pape Pie XI et qui le feront pleurer d'émotion. Ce sera pour après. On peut penser également à Garcia Moreno, président de l'Équateur, à la fin du XIXe siècle, président catholique extraordinaire qui a consacré son pays au Sacré-Cœur, qui régissait son pays selon les préceptes de la royauté du Christ, assassiné à la sortie de la messe par un anarchiste, et en tombant à terre, il a juste eu le temps de dire « Dieu ne meurt pas ». Le Christ est donc roi. Il est roi par nature, puisqu'il est notre créateur et que nous sommes ses créatures, donc ses sujets. Et il est roi également d'une deuxième manière, il est roi par conquête. Puisqu'il est notre rédempteur et qu'il nous a rachetés comme on rachète des esclaves. Et l'Église a voulu, il y a 87 ans, en 1925, pour mieux nous faire réaliser cette royauté du Christ, qui n'était pas nouvelle, l'Église a voulu instaurer une fête, la fête du Christ roi dans notre calendrier. Particulièrement pour combattre ce que Pie XI appelait la peste du laïcisme. Donc nous savons que le Christ est roi, mais c'est vrai que nous avons bien du mal en 2012 à imaginer d'une manière concrète dans notre monde, dans nos pays européens, et en particulier en France, où les institutions se doivent d'être laïques, dans le sens de n'avoir aucune religion, nous avons bien du mal à imaginer la royauté du Christ reconnue dans notre pays. On a du mal à imaginer que le Christ soit le roi concrètement d'un pays de 60 millions d'habitants qui est laïque dans ses institutions jusqu'au bout des ongles, dans tous ses représentants, et également dans une immense majorité aujourd'hui de ses membres, puisque les Français ne sont pour une partie d'entre eux catholiques de nom, mais ne sont plus du tout catholiques en fait. Hein. Je crois que nous devons oublier une fois pour toutes, la France est chrétienne et doit rester. La France n'est plus chrétienne. La France était chrétienne, mais la France n'est plus chrétienne. Vous voyez, il faut. Voilà, la France est à convertir, mais la France n'est pas chrétienne. Donc la royauté du Christ semble virtuelle, à une heure où on est même à ne pas reconnaître, pas la chrétienté de notre pays, mais ses racines chrétiennes. Nous sommes loin de l'Ancien Régime, où l'on parlait du roi très chrétien, et même si le roi était aussi très pécheur, parfois, ce roi se devait de protéger l'Église, de protéger la loi de Dieu, etc. Nous vivons dans un autre monde. Nous sommes même loin de la République du XIXe siècle, qui combattait l'Église, mais qui était capable, à l'Assemblée nationale, de faire reconnaître la construction de la basilique du Sacré-Cœur comme d'utilité publique, suite au vœu et à la souscription nationale qui avait été faite. Vous voyez, aujourd'hui, ce serait impensable. Or, quand nous parlons du règne de Dieu dans notre Père, que votre règne arrive, quand nous parlons du règne du Christ, quand nous souhaitons le règne du Christ, nous le souhaitons dans la sphère publique. Même si cela semble impensable. Quand nous demandons par cette petite phrase que votre règne arrive, la venue du règne de Dieu, c'est bien son règne sur nos cités. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Christ est le roi de ce monde. Le Christ est le roi de nos pays, le Christ est le roi de nos cités. Il sait ce que nous demandons. Même si cela semble, et cela est aujourd'hui, humainement impossible. Nous devons continuer de le demander dans nos prières. Parce que c'est justice. Dieu est notre vrai roi et un jour il règnera à nous. Comme on va les voir, voulait faire régner à nouveau le prince Jean, eh bien nous aussi nous ne devons pas abandonner les principes. Même si peut-être demain, si vous vous présentez pour être président de la République, ce n'est pas la première demande, parce qu'elle est impossible. Impossible à appliquer aujourd'hui. Mais elle doit rester dans notre cœur. Et elle doit rester dans notre. En principe, elle doit rester très ferme, parce que, mais c'est sûr que ça, c'est pas la peine de vous présenter, pas se présenter au suffrage universel, hein, exactement. C'est autre chose. Tout royaume bâti en dehors de lui ne subsistera pas. Celui qui bâtit en dehors de Dieu bâtit sur du sable. Si on regarde l'histoire du monde, tous les régimes se sont succédés les uns après les autres. Aucun n'a demeuré. Seul le christianisme franchit les siècles. Saint Jean Chrysostome, on est au 5e siècle, mais finalement on pourra le dire encore plus de justesse aujourd'hui, disait que de tyrans ont voulu dominer l'Église. Comptez, à l'époque, les chaudières, les fournaises, les bêtes féroces, les glaives aiguisés, et ils ne l'ont pas dominé. Où sont-ils? Ceux qui lui ont fait la guerre, ils ont été réduits au silence, livrés à l'oubli. Au contraire, où est l'Église? Elle efface le soleil par sa splendeur. Néron, il n'est plus là. Hitler, il n'est plus là. Staline, il n'est plus là. Les autres ne seront plus là après-demain. L'Église, elle sera encore là. Et le refus de nous mettre sous le joug du Christ, de le laisser régner, fait que nous nous condamnons à ne pas recevoir les bénédictions de Dieu et même à être punis par Dieu parce que notre pays est un ancien pays chrétien et Dieu régnera non pas par son amour mais par sa justice. Et notre monde actuel est déjà puni puisque l'on y assassine les enfants à naître, on y euthanasie déjà même sans loi beaucoup de vieillards, on traque les enfants handicapés non nés avant la naissance pour les mieux les éliminer. Voilà. Et on voit, si vous ouvrez vos journaux, on voit chaque jour des choses plus hallucinantes les unes que les autres, où une mère a tué toute sa famille, quand c'est pas le père ou la grand-mère. On voit des trucs qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans, des choses, c'est chaque jour un petit peu plus abominable. Jean-Paul II, en 2002, disait... Outre l'épée et la faim, se manifeste une tragédie plus grande, celle du silence de Dieu, qui ne se révèle plus et semble s'être enfermé dans le ciel, comme dégoûté de l'agir de l'humanité. Voyez. Et rappelons-nous ce que notre Seigneur disait dans l'Évangile. Quand paix à cette maison, quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison, et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en quelques villes que vous entriez, et qu'on vous reçoive, mangez ce qui vous sera servi, guérissez les malades, etc. Et dites, le royaume de Dieu est proche de vous. Et en quelques villes que vous entriez, et qu'on ne vous reçoive pas, allez sur les places publiques et dites, la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Nous l'essuyons contre vous. Sachez cependant ceci, que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, il y aura en ce jour-là moins de rigueur pour Sodome que pour cette ville. Et donc nous devons continuer dans nos prières, dans notre cœur, à garder, à demander le règne de Dieu. Que votre règne arrive, c'est aussi, et là c'est concret, comme pour que votre monde soit sanctifié, c'est que votre règne arrive en moi. Pouvons-nous dire vraiment que le bon Dieu règne en nous? Nous avons sur nos voitures des autocollants divers et variés du Sacré-Cœur, chef de notre pays, espoir et celui de la France, etc. C'est merveilleux. Mais il ne faudrait pas que nous soyons seulement des militants pour le règne du Christ dans la cité en oubliant son règne dans nos âmes. Hein, il ne faudrait pas que le Sacré-Cœur soit seulement sur nos bannières et que nos bannières finalement soient beaucoup plus catholiques que nous. Quand nous disons que votre règne arrive, nous devons entendre ce règne dans notre âme avant toute chose. Les bannières ne vont pas au ciel ni les voitures, mais nous sommes destinés pour le ciel. Jésus est mon roi avant d'être le roi de la cité. Rappelez cette histoire de Saint Jérôme qui lisait beaucoup Cicéron, qui eut un songe, il était au ciel, il se dit bonjour, je suis chrétien, et le lui dit non, je suis cicéronien, et il le fit prêter. Et il se réveilla traumatisé. Heureusement, ce n'était qu'un mauvais rêve, mais il avait la marque des fouets. Et il comprit ce jour-là. Voilà, le roi de notre âme, ce n'était pas Cicéron, ou c'était pas Johnny Hallyday, ou c'était pas. Le roi de notre âme, c'était notre Seigneur, et nous devions vraiment vivre en conséquence. Il va abandonner ses lectures profanes pour se tourner vers la Sainte Bible qu'il connaîtra par cœur. Il deviendra le traducteur de la Bible, etc. Donc nous sommes le royaume de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu, notre corps est son palais, et doit rester toujours digne de celui qui l'a visité. Saint Thérèse d'Avila disait, partout où est le roi, là aussi est sa cour. Si nous sommes en état de grâce, nous sommes habités par Dieu. Et nous savons tous qu'il existe en nous un autre chef qui aimerait bien être le roi de notre personne et qui dispute à Dieu la royauté sur nous-mêmes. Cet autre chef, ce n'est pas d'abord le diable, qui c'est vrai, lui aussi il est dans la course, il est numéro 3, il voudrait bien être notre roi, mais avant le diable il y a un autre chef qui se dispute notre personne, beaucoup plus difficile à déloger que le diable, et avec lequel nous avons des liens très profonds, mais des liens mal établis, ce chef c'est lui. Le grand obstacle à la royauté de Jésus sur nous, c'est nous-mêmes. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même. Saint Augustin, très jolie formule, que vous avez peut-être entendu 30 fois, ou une, jamais, disait « Deux amours ont fait deux cités, l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi, et l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu. Hein, » c'est une dispute entre Dieu et nous-mêmes. Saint Jean-Baptiste disait, en parlant du Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et tout le travail de l'ascèse chrétienne consiste à donner à Dieu la première place dans notre âme, afin qu'il soit vraiment le roi. Nous devons éliminer le vieil homme en nous, pour revêtir cet homme nouveau qui est le Christ. Le jeu, c'est pas de nous priver de ceci, c'est de nous priver de nos caprices. Je veux, donc je prends. Je veux, et on veut sans cesse. C'est quelque chose qui gonfle. Donc il faut savoir couper ce je veux, pour que ce soit Dieu qui veuille en nous, que nous faisions ce que Dieu veut. Donc quand nous disons dans cette deuxième demande du Notre Père que votre règne arrive, cela doit aussi vouloir dire que nous demandons à Dieu la force de savoir renoncer à nous-mêmes. Le premier ennemi, ce n'est pas d'abord la franc-maçonnerie, c'est un ennemi. Ce n'est pas d'abord l'islam, c'est aussi un ennemi. Ce n'est pas d'abord tel ou tel fléau, le grand ennemi de notre âme, c'est d'abord nous-mêmes, notre moi qui veut n'en faire qu'à sa guise, notre égoïsme, notre orgueil, notre paresse, nos sept péchés capitaux qui ne demandent qu'une chose, c'est de se développer tranquillement, de prendre leurs aises. Saint Philippe Néri disait souvent à Dieu, « Seigneur, méfiez-vous de Philippe, car il pourrait bien vous trahir. » Toute notre vie spirituelle se bâtit sur deux fondements, la défiance de soi et la confiance en Dieu. Saint François Sales disait « Il faut mourir entre deux oreillers. » Jusqu'à là, on est tous d'accord. Celui de l'humilité et celui de la confiance. Nous appartenons avant toute chose à Dieu qui est notre roi. Et il ne faut pas lui voler son royaume. Nous ne chassons pas l'ennemi de notre âme qui est notre moi. Nous ne donnerons pas tout pouvoir à Dieu sur nous si nous nous faisons en même temps les esclaves de tel ou tel ennemi du roi. Et c'est vrai que nous nous attachons tous à certaines choses qui parfois, dans notre vie spirituelle, sont de véritables obstacles. Ce qui en fait les exercices spirituels de cette classe, c'est l'histoire du lapin blanc. Petit lapin, on se détache de tout, sauf de ce lapin blanc. Ce lapin blanc qui reste un obstacle. Saint Alphonse de Liguori disait d'un oiseau, il peut être attaché à la patte par une grosse chaîne ou par un petit fil, mais chaîne ou petit fil, il n'arrivera pas à prendre son essor et aller au ciel. Et de la même manière, parfois nous avons des toutes petites choses qui nous retiennent. Mais c'est, non, pas celle-là. Le grand compositeur Lully reçut dans sa dernière maladie la visite de son confesseur. Et il se vit contraint par ce confesseur, s'il voulait recevoir l'absolution, de jeter au feu le début d'un opéra qui était jugé licencieux, auquel il travaillait. Et il se fit prier longtemps par son confesseur, c'était son lapin blanc. Finalement, il voulait quand même recevoir l'absolution, il accepte. Le confesseur s'en va, un visiteur vient le voir après, il dit « Mais t'as été nul, t'as acheté ton opéra ?» Et lui, il sourit et lui dit tout bas, « J'en ai gardé une seconde copie. » Alors c'est drôle, mais c'est pas drôle. Et nous gardons tous, malheureusement, souvent des secondes copies, nos résolutions ne sont pas faites. Le Christ ne règne pas entièrement en nous. Alors, il ne faut pas tout jeter non plus, hein. Et vivre sur une colonne comme les stélites, on n'a pas vocation à ça. Mais par contre, il y a certainement des choses qui peut-être vraiment sont les empêchements de notre vie. Des amis, parfois c'est Internet. Internet c'est bien une heure, c'est pas bien 5 heures. Vous voyez, parfois ce sont des la télévision, des choses. Le monde nous absorbe avec beaucoup de choses qui sont. Voilà. Il faudrait pouvoir dire avec saint Augustin, Seigneur, brûlez et tranchez ici-bas, ne m'épargnez pas, afin de ne pas m'épargner pour l'éternité. Voyez, parfois c'est les rancunes que nous avons. Moi, je veux bien pardonner à tout le monde, mais pas à celui-là. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ou alors, on fait un petit acte, et puis on garde une seconde copie. Voilà. Saint François Sales disait, « Oui, Seigneur Jésus, sans si, sans mais, sans exception, votre volonté soit faite. » Donc nous arrivons, quelque part, j'ai passé des trucs, on doit arriver à la volonté de Dieu. Que votre volonté soit faite. La bienheureuse Mère Teresa disait que la sainteté, c'est faire la volonté de Dieu. Et elle a ajouté quelque chose qui, je crois, est très important. Avec le sourire. Parce que la volonté de Dieu, on la fait toujours plus ou moins. On a perdu, on a un gros accident de voiture. Avec le sourire, je crois qu'il faut vraiment, sinon on n'est pas sain. Donc, tiens, il faut faire la volonté de Dieu avec le sourire. Saint Paul disait, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Alors cela peut paraître simple, à première vue, mais les choses se compliquent. Quand cette volonté de Dieu ne s'harmonise pas avec notre petite volonté. Ça, on n'avait pas prévu. Le bon Dieu a des idées différentes de notre bonne volonté. Faire la volonté de Dieu, finalement, n'est pas si facile que ça. Et nous ne devons pas en être étonnés. Si la volonté de Dieu était facile à notre nature blessée, ben, probablement, dans la prière du Notre Père, notre Seigneur aurait supprimé cette phrase. À la peine de le demander, c'est évident pour tout le monde. Non. S'il nous a fait demander dans la prière de Notre Père de dire « Fiat volontas tua », c'est que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que sa volonté s'applique sur nos âmes, sur la terre comme la ciel. Concrètement, et bien souvent, cette volonté divine vient sans cesse nous contrarier. Alors nous voulons faire la volonté de Dieu, mais concrètement, quand elle se manifeste, nous ne l'attendions pas sous cette forme. Le bon Dieu vient nous désarçonner, nous désorienter, nous faire prendre des chemins, exactement le chemin que nous n'aurions pas voulu prendre. Sainte-Jeanne de Chantal, on reparlera cet après-midi, elle est mariée au meilleur, au plus pieux des maris, elle est très pieuse elle aussi, mariage exemplaire, extrêmement chrétien, où l'un et l'autre cèdent à se sanctifier. Quelle idée que c'est tout ça, un modèle de famille chrétienne. Et voilà que son mari meurt à la chasse, alors qu'elle est enceinte de son quatrième enfant. Et la pieuse Madame de Chantal, qui voulait faire la volonté de Dieu, évidemment, mais elle est anéantie. Il n'est pas facile d'embrasser la volonté divine. Et elle aura un mal fou, nous en parlons cet après-midi, avec cet exemple aussi, à pardonner au pauvre homme qui, par accident, avait tué son mari à la chasse. Il faudra l'influence de Saint François de Sales. Elle avait 4 enfants, elle n'avait pas prévu d'entrer au couvent. Et les fondatrices non plus, vous voyez. La volonté de Dieu, elle est parfois assez difficile à suivre. Et quand elle sera au couvent fondatrice de son ordre, elle n'avait pas prévu non plus que ça se passerait comme ça. Elle a créé des visitandines. Les visitandines sont des sœurs qui visitent. C'était pour visiter les pauvres. Voilà. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au bout de quelques mois, elle s'est retrouvée avec des cloîtrés. L'évêque de Lyon ne l'a pas permis et elle a fondé un couvent de religieuses visitandines, les cloîtrés, parce que les visitandines sont cloîtrés. Et elle dira, je ne comprends pas, on m'appelle supérieur. C'est curieux parce que je ne fais jamais ma volonté. Voilà. Ce sera la même chose avec la bienheureuse Marguerite, Marie de l'Incarnation, des vies un petit peu parallèles, qui rentrera au couvent à la mort de son mari. Et elle attendra. Il faudra que Sainte-Jeanne de Chantal, il faudra qu'elle marche sur le corps de son fils, Sainte Bénigne, qui lui dira, si vous voulez entrer, si vous voulez faire religieuse, il faudra me passer sur le corps. Ça mangera, et elle passera. Et ce sera pareil pour les bienheureuses Marguerite de l'Incarnation, qui rentrera chez les Jocelyne, et qui entendait dans les premières années son fils derrière les murs. Il n'était pas très content. Et il viendra père abbé et il écrira la vie de sa mère. Donc la volonté de Dieu, elle n'est pas prévisible. Elle est changeante. Changeante pour nous, parce que Dieu, lui, il avait tout prévu. Mais nous, nous n'avions pas du tout prévu cela. La bonne mère Teresa, nous lirons sa vie à midi, quand elle rentra au couvent en 1928, elle ne se doutait pas une minute que 18 années plus tard, le bon Dieu, alors elle se trouvera pieusement dans le train et qu'elle priait que le bon Dieu lui demanderait de sortir de ce couvent où elle avait prononcé ses vœux. Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu. Le message était clair, je devais sortir du couvent et aider les pauvres en rentrant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. Et elle se retrouve toute seule, fiat voluntas tua. Dans la vie de Sainte Françoise Cabrini, très connue. C'est un peu pareil. Dieu l'a conduit là où elle ne voulait pas aller. Elle rêvait d'être religieuse en Chine. Et elle est envoyée aux États-Unis. Afin d'assurer l'avenir de l'ordre religieux qu'elle a fondé, après des années, elle souhaite établir une maison à Rome et obtenir une approbation spéciale du souverain pontife. On le lui déconseille en alléguant la jeunesse de son institut et les nombreuses maisons religieuses déjà installées à Rome. Reçue en audience par le cardinal vicaire de Rome, elle lui explique ses désirs et à sa grande déception, elle reçoit cette réponse « Soyez obéissante et retournez chez vous. » Et c'est souvent la réponse que nous avons aussi. « Retournez chez vous, tu reviendras plus tard. Vous reviendrez à un moment plus important. » C'est dans l'obéissance que la volonté de Dieu se manifeste. Mais elle coûte cette obéissance à la volonté de Dieu. Au bout de quelques temps, le même cardinal la rappelle et lui demande « Eh bien, Mère Cabrini, êtes-vous toujours prête à obéir ?» Certainement, Éminence. Eh bien, dans ce cas, je ne vous permets pas d'établir une maison à Rome, je vous ordonne d'en établir deux. L'obéissance à la volonté de Dieu coûte toujours l'obéissance à le supérieur, mais tôt ou tard, elle tourne au bien. Alors, dans nos vies tous les jours, probablement, mais très certainement, le bon Dieu ne nous demande pas de fonder un ordre religieux, mais nous savons, vous savez, que la vie nous réserve parfois des surprises qui ne nous ont pas toujours fait bondir de joie, des épreuves, parfois très grandes, pour nous ou pour ceux que nous aimons. Il faut essayer de dire avec la Sainte Vierge, fiat, il faut essayer de nous abandonner, il faut essayer surtout d'avoir, de renouveler notre confiance en Dieu. Mon Dieu, disait Sainte Thérèse d'Avila, vous savez tout, vous pouvez tout et vous m'aimez. Alors il est possible, bien sûr, dans les épreuves que mon Dieu nous a données et nous donne, il est possible d'essayer de demander d'en être délivré, soit de manière humaine, soit par la prière de Monseigneur au Jardin des Oliviers, a bien dit à son Père, « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Et nous pouvons demander à Dieu d'être délivré de telle ou telle épreuve, mais comme lui, nous devons ajouter « Cependant, que votre volonté soit faite et non la mienne. » Les voies de Dieu seront toujours mystérieuses, et il faut qu'elles restent mystérieuses. Si c'est trop clair, il n'y a plus de mérite. Et il faut absolument que nous ne sachions pas où il veut nous mener. Il faut que ce soit déconcertant. Et c'est là où c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la foi dans Dieu. On sait pas où on va, on a un bandeau sur les yeux, mais on sait que c'est pas dans un précipice. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous aide. Voilà. Les épreuves de cette vie conduisent à la gloire. On parlait de la fille de Louis XV, nous allons parler de son épouse maintenant, Marie Leschinska. Elle avait fait graver sur la porte du tabernacle de la chapelle de Chambord deux couronnes. En bas, une d'épines, en haut, une de gloire, et elle avait fait graver ces mots, de l'une à l'autre. Vous voyez, nous aurons la couronne de gloire si nous passons par la couronne d'épines. Associer, dira saint Paul, à ses souffrances pour être participant à sa gloire. Mais il faut dire fiat, et c'est très loin d'être facile. Et je vais terminer juste avec la lecture, pour que notre volonté soit faite, avec la lecture d'une lettre, que vous avez peut-être déjà lue, qu'on trouve dans les œuvres complètes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la lettre 144, datée du 23 juillet 1893, adressée à sa sœur Céline, une très belle lettre qu'elle envoyait à Don du Carmel à sa sœur, qui était un peu découragée, et qui ne voyait pas trop sa sœur où le bon Dieu voulait l'amener. C'était un peu au bout du rouleau. Et cette lettre de Sainte Thérèse est intéressante, car elle nous rappelle combien Dieu sait bien ce qu'il fait. Combien il est toujours avec nous. Et nous pouvons la lire parfois comme si elle nous était adressée, particulièrement quand nous sommes un peu découragés par les événements. Alors elle fait une bonne vingtaine de lignes. Donc il va falloir un petit peu d'attention, mais elle est très belle. Je ne suis pas surprise que tu ne comprennes rien à ce qui se passe dans ton âme. Un petit enfant, tout seul sur la mer, dans une barque perdue au milieu des flots orageux, pourrait-il savoir s'il est prêt ou loin du port. Quand son œil contemple encore le rivage d'où il est parti, il sait combien il a fait de chemin. En voyant la terre s'éloigner, sa joie enfantine ne peut se contenir. « Oh, dit-il, me voici bientôt au bout de mon voyage. » Mais plus la plage s'éloigne, plus aussi l'océan semble vaste. Alors, la science du petit enfant est réduite à néant. Il ne sait plus où va sa nacelle. Ne connaissant pas la manière de conduire le gouvernail, l'unique chose qu'il puisse faire, c'est de s'abandonner, de laisser sa voile flotter au gré du vent. Marceline, la petite enfant de Jésus, est toute seule dans une petite barque. La terre a disparu à ses yeux. Elle ne sait pas où elle va, si elle avance ou si elle recule. La petite Thérèse sait bien. Elle est sûre que sa Céline est en pleine mer. La nacelle qui la porte vogue à voile déployée vers le port. Le gouvernail que Céline ne peut même pas apercevoir n'est pas sans pilote. Et Jésus est là, dormant comme autrefois dans la barque des pêcheurs de la Galilée. Il dort et Céline ne le voit pas car la nuit est descendue sur la nacelle. Céline n'entend pas la voix de Jésus. Le vent souffle. Elle l'entend. Elle voit les ténèbres. Et Jésus dort toujours. Cependant, s'il se réveillait seulement un instant, il n'aurait qu'à commander au vent et à la mer et il se ferait un grand calme. La nuit deviendrait plus claire que le jour. Céline verrait le divin regard de Jésus et son âme serait consolée. Mais aussi, Jésus ne dormirait plus. Et il est si fatigué. Ses pieds divins se sont lassés à poursuivre les pêcheurs et dans la nacelle de Céline, Jésus se repose si doucement. Les apôtres lui avaient donné un oreiller. L'évangile nous rapporte cette particularité. Mais dans la petite barque de son épouse chérie, notre Seigneur trouve un autre oreiller beaucoup plus doux. C'est le cœur de Céline. Là, il oublie tout. Il est chez lui. Ce n'est pas une pierre qui soutient sa tête divine, cette pierre après laquelle il soupirait pendant sa vie mortelle. C'est un cœur d'enfant, un cœur d'épouse. Oh, que Jésus est heureux. Mais comment peut-il être heureux alors que son épouse souffre, qu'elle veille pendant que lui dort si doucement? Ne sait-il pas que Céline ne voit que la nuit, que son divin visage lui demeure caché et même parfois le poids qu'elle sent sur son cœur lui semble lourd? Quel mystère! Jésus, le petit enfant de Bethléem, que Marie portait comme un léger fardeau, se rend lourd. Si lourd que saint Christophe s'en étonne. L'épouse des Cantiques, elle aussi, dit que son bien-aimé est un bouquet de myrrhe et qu'il repose sur son sein. La myrrhe, c'est la souffrance. Et c'est ainsi que Jésus repose sur le cœur de Céline. Et cependant, Jésus est heureux de la voir dans la souffrance. Il est heureux de tout recevoir d'elle pendant la nuit. Il attend l'aurore, et alors, oh, alors, quel réveil que celui de Jésus. Sois sûre, ma Céline chérie, que ta barque est en pleine mer, déjà peut-être bien près du port. Le vent de douleur qui la pousse est un vent d'amour, et ce vent-là est plus rapide que l'éclair.